Bon, assez vite, on a déjà 5 minutes de retard, donc commencer cette conférence. Alors, donc j'ai noté, j'ai pris quelques notes donc du thème. Alors, nous allons démarrer cette conférence sur le thème de du modèle économique libéral actuel, une fatalité. Alors, on a déjà une partie de la réponse. Et je vais vous présenter tout de suite les trois intervenants de cette conférence. Alors je vais commencer par Raoul Marc Génard, que vous connaissez sans doute, qui est donc chercheur à l'URFIG, à l'unité de recherche de formation et d'information sur la globalisation. Bon, on l'a connu pendant la campagne référendaire de 2005. Donc il est auteur aussi d'un livre « L'Europe, la trahison des élites ». Je vous présente également donc Frédéric Lordon, qui est donc directeur de recherche au CNRS et qui est aussi auteur d'ouvrages comme celui qui concerne les fonds de pension piège à con et La vertu sauvera le monde. Non, vous inquiétez pas. Il est également, j'allais dire à l'affiche, mais il est également présent dans un film qui est sorti très très récemment, qui s'appelle Ma mondialisation. Je vous le recommande par ailleurs. Et donc nous avons aussi comme intervenant Damien Millet, donc du comité pour l'annulation de la dette du tiers monde, France. Voilà. Bon, alors spécialiste des questions Nord-Sud. Hein. Et donc on va démarrer ce débat donc avec cette idée. Je vais vous expliquer un petit peu comment on va faire. Donc Raoul va d'abord commencer, ensuite Damien et conclura donc Frédéric. Pourquoi ? Parce que Raoul va nous parler un petit peu comment s'est construite cette mondialisation, et comme il est expert et très bon connaisseur de l'Organisation mondiale du commerce et des mécanismes de fonctionnement de l'Union européenne et de traités internationaux, et donc il aura pas mal de choses beaucoup d'éléments à vous donner là-dessus. Ensuite, Damien, lui, nous parlera d'un autre mécanisme de la mondialisation qui est de celui de la dette et ce qui en constitue d'ailleurs un des éléments fondamentaux. Et ensuite, à la fin, Frédéric donc interviendra pour lui donner sa vision de cette mondialisation et surtout en montrer, on verra que ce n'est pas une fatalité justement, en montrer les alternatives, en donner quelques pistes du moins, vu que le temps qui nous est imparti est quand même relativement court. Donc les interventions, on va essayer de les faire assez courtes pour qu'il y ait à peu près, pour qu'il y ait trois quarts d'heure donc de questions posées par vous dans la salle. Voilà, donc je laisse tout de suite la parole à Raoul.
Bonjour. J'ai envie de dire tout simplement, et d'abord, il n'y a pas de fatalité. Matin, midi et soir, sur les ondes de nos radios, privées ou publiques, dans la plupart des organes de presse, Politis excepté, on essaye de nous faire croire que ce mouvement, cette mondialisation néolibérale, c'est-à-dire cette dictature des marchés, est quelque chose de parfaitement inévitable, est quelque chose contre lequel on ne peut rien. Margaret Thatcher elle-même disait « il n'y a pas d'alternative », manière de nous le faire croire. Et pourtant, tout ça ne vient pas comme le soleil après l'orage ou l'orage après le soleil. Tout ce à quoi nous assistons, c'est-à-dire à la remise en cause du modèle keynésien, à la remise en cause d'un libre-échange encadré, régulé, à la remise en cause du rôle des pouvoirs publics à tous les niveaux, ça a été pensé, ça a été préparé, et puis ça a commencé à être mis en œuvre avec Reagan et avec Thatcher. Ça a continué en traversant la Manche, si vous voulez, avec ce qui s'est passé et qu'on peut dater en France à partir de 1983, le tournant de la rigueur, et Jacques Delors. C'est pendant ces années 80 que non pas un phénomène extraterrestre surgit subitement sur la planète a mis en place cette mondialisation, mais nos gouvernements ont négocié à différents niveaux ce qui est aujourd'hui la machine à libéraliser. C'est pendant les années 80 qu'au niveau européen, à l'initiative de Jacques Delors, on fait passer d'abord un texte qui s'appelle l'Acte unique européen et qui met fin à la contrainte, entre guillemets, d'harmonisation, harmoniser socialement en même temps qu'on harmonise commercialement et économiquement. C'est aussi à l'initiative de Jacques Delors que se prépare, se rédige, se négocie et se vote le traité de Maastricht qui contient un programme de libéralisation de tous les services du secteur marchand. Et au même moment où on négocie le traité de Maastricht, on négocie sur un plan international la fondation de l'Organisation mondiale du commerce et en particulier, puisque je parlais de services il y a un instant, l'accord général sur le commerce des services. Ce sont les mêmes personnes qui négocient ces matières-là. Ce n'est donc pas le fruit du hasard, ce n'est donc pas une évolution inéluctable, c'est le résultat d'une volonté politique. On a voulu qu'il en soit ainsi parce que un certain nombre d'entreprises, et en particulier et d'abord les firmes multinationales, qui par définition agissent transfrontalièrement, si j'ose utiliser ce néologisme, les firmes transnationales avaient besoin qu'on fasse sauter les frontières, et pas seulement les frontières du point de vue de la nationalité, mais surtout les frontières en termes de barrières douanières, en termes de souveraineté sur le plan des législations et des réglementations. Tout ce mouvement de libéralisation, c'est en fait un démantèlement des souverainetés. Ce n'est donc pas une fatalité. Et il faut bien s'en rendre compte, tous les jours, toutes les semaines, sont prises des initiatives, soit au niveau européen, soit au niveau mondial, avec la collaboration, pour ne pas dire la complicité des gouvernements, qui nous font avancer chaque fois un peu plus vers cet autre ordre mondial qui en fait instaure la dictature des marchés. Je ne vais pas être trop long, mais je voudrais quand même un tout petit peu m'arrêter sur quelques exemples. Et pour commencer, je voudrais vous dire ceci. Si, en tout cas pour ce qui me concerne, si tout à l'heure, quand on se quittera, vous ne retenez que ce que je vais dire maintenant, ben je pense que ça n'aura pas été inutile. Je crois qu'aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe, il faut absolument se mettre dans la tête les trois niveaux de décision. Le niveau de l'État, où il y a le gouvernement, le niveau de l'Europe, où il y a aujourd'hui 25, bientôt 27 gouvernements, le niveau de l'Organisation mondiale du commerce, où il y a 150 gouvernements. Vous aurez noté qu'à chacun des trois niveaux, il y a toujours les gouvernements. Et c'est ça qui est important. C'est qu'aujourd'hui, en fait, quand on vous dit que Matignon a décidé quelque chose, c'est pas tout à fait correct. Matignon met en œuvre quelque chose auquel le gouvernement français a participé à l'élaboration, soit au niveau de l'Union européenne, soit au niveau de l'Organisation mondiale du commerce, soit aux deux niveaux en même temps. Ce qui veut dire que chaque fois, nos gouvernements sont complètement partie prenante aux choix qui sont faits. Il n'y a rien de plus faux que de dire « c'est pas nous, c'est Bruxelles, c'est pas nous, c'est Genève, siège de l'OMC ». Parce que il n'y a pas de décision au niveau de l'Europe ni au niveau de l'OMC sans qu'il y ait l'accord, la participation et l'accord de nos gouvernements. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être un tout petit peu vous dérouter. Mais quand l'actuel personnage qui sévit au ministère de l'Intérieur parle de d'immigration choisie. Il n'a rien inventé. L'immigration choisie, pour parler un tout petit peu jargon, excusez-moi, elle a été négociée par le gouvernement de la République entre 1989 et 1993, quand on négociait les accords de l'OMC. L'immigration choisie, c'est le mode 4 de l'accord général sur le commerce des services qui permet à un employeur de faire venir à titre temporaire du personnel d'un autre pays de l'OMC et de le traiter comme on le traite dans son pays d'origine, l'employeur, avec bien sûr l'assistance des pouvoirs publics, sélectionnant ce personnel à titre temporaire. Vous voyez, le cadre juridique a été créé au niveau de l'OMC et il est aujourd'hui possible de l'appliquer soit au niveau de toute l'Europe, ce qu'elle s'efforce de faire, soit au niveau de chacun de ses États membres. Et je pourrais prendre un autre exemple qui est dans l'actualité, et je terminerai là-dessus, puisque on va, je l'espère, beaucoup échanger, mais tout le monde a dans l'oreille, dans la mémoire, un nom qui sonne un peu bizarre, mais enfin, ça, c'est pas un problème, c'est Bolkestein. Bolkestein, c'est devenu l'emblème d'une proposition de directive européenne, de loi européenne, qui est en fait une simple application à l'espace européen de l'accord général sur le commerce des services de l'OMC. Et encore une fois, pour qu'il y ait une proposition Bolkestein, il faut l'accord de chacun des gouvernements de l'Union européenne, et donc du gouvernement français, comme pour qu'il y ait eu la GCS, il a fallu l'accord du gouvernement français et de tous les autres États membres de l'Union européenne. La semaine prochaine, mardi, à Strasbourg, commencera le débat en séance plénière pour la phase finale de l'adoption de la directive sur les services dans le marché intérieur, puisque c'est son nom. Et jeudi à midi, les députés européens voteront. Je ne vais pas entrer dans le détail, si ça vous intéresse, ben, posez une question tout à l'heure. Mais ce qui va se passer, parce que ça va être voté jeudi prochain, il y a une sainte alliance, si j'ose dire, des chrétiens démocrates, des sociaux-démocrates et des libéraux, pour que le texte, même modifié, qui reste insuffisant, soit adopté. Eh bien, voilà le résultat concret d'une parfaite complicité de nos gouvernements aux trois niveaux de décision que j'ai indiqués. Et je vais terminer par là. Il faut aujourd'hui, si l'on veut être citoyen conscient et agissant, intégrer complètement, non pas seulement le niveau national, ça je présume que c'est acquis, mais autant et avec autant de curiosité et de détermination, le niveau européen et même le niveau international. Parce que sinon, si on ne le fait pas, ça pourrait être fatal. Merci.
Merci beaucoup, Raoul. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de questions qui seront posées autour de ce que vient de dire Raoul. Donc, il n'a cessé de dire que ça n'était pas une fatalité. Mais cela dit, la bonne marche de la mondialisation veut qu'effectivement, la semaine prochaine, une décision très importante, et on sait déjà, et on peut même d'ores et déjà dire, que l'adoption de la directive Bolkestein est déjà acquise, ce qui est quand même un comble. Donc je vais passer tout de suite la parole. Je ne me suis pas présenté exprès. Il y aura sans doute une ou deux questions autour de Politis, j'imagine. Donc je vous dirai aussi pourquoi je remplace Denis Sieffert. Mais c'est un peu secondaire. C'est pas le but de cette conférence. Je passe tout de suite donc la parole à Damien qui va vous expliquer un des mécanismes fondamentaux, donc qui est celui de la dette et des questions Nord-Sud. Mais avant, Raoul veut dire.
Je vais essayer de prendre un micro qui marche. Merci. Bonjour à tous. Effectivement, est-ce que c'est une fatalité, ce modèle économique? Mais ce modèle a intérêt à le faire croire. Et il a pour cela une force de frappe médiatique absolument imposante. Alors on a parlé de Thatcher tout à l'heure, qui disait « there is no alternative », mais si vous écoutez France Info, par exemple, vous allez remarquer qu'avant chaque journal, on vous met la bourse. C'est pas juste parce qu'il y a un créneau à ce moment-là qui est disponible. C'est parce qu'en fait, c'est ce problème boursier qui va sous-tendre toute l'actualité politique, économique, financière du journal qui va se dérouler ensuite. Donc il y a un vrai bourrage de crâne médiatique à tous les niveaux. Parfois il est relativement peu subtil, comme cela. Parfois il est un peu plus subtil. On nous dit des fois, nous qui travaillons sur l'annulation de la dette, dont on va parler après, on nous dit mais si on annule la dette de sous ces pays surendettés, et ils n'auront plus accès au crédit, pour discréditer le message de l'annulation de la dette. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait finalement en posant cette question-là? On nous dit voilà, il y a un modèle économique où la dette est un des centres nerveux. On va laisser le modèle économique en place et on annule la dette. Mais effectivement, si on laisse le modèle économique en place, ces pays n'auront plus assez de capitaux pour se développer. Donc ils devront se réendetter de nouveau. Donc du coup, on nous dit votre annulation de dette n'est pas valable. Mais c'est pas cette-là d'annulation de dette que nous on veut. Donc je crois qu'il faut remettre les choses en perspective pour bien comprendre que l'annulation de la dette prônée par la Banque mondiale, le FMI et d'autres, et l'annulation de dette que les mouvements sociaux dont le CADTM fait partie réclament, ce ne sont pas du tout les mêmes expressions, même si eux ont récupéré notre vocabulaire pour amoindrir la contestation qu'on commençait à représenter. Comme l'a dit Raoul Marc Génard, la mondialisation d'aujourd'hui a les conséquences de choix économiques bien précis. Et la dette est un des centres nerveux de cette mondialisation. Ça a été un des vecteurs pour imposer cette machine à libéraliser. Comment ça s'est passé? En quelques mots, je reviens plus de 40 ans en arrière. Dans les années 1960 et 1970, les banques européennes et les banques nord-américaines regorgeaient de capitaux. Il y a d'abord eu ce qu'on a appelé les euro-dollars. C'était tous les dollars envoyés par les États-Unis sur le territoire européen pour la reconstruction de l'Europe, notamment par l'intermédiaire du plan Marshall à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, au moment du choc pétrolier de 1973, l'arrivée de ce qu'on appelait les pétrodollars, c'est-à-dire ces revenus du pétrole, notamment des Émirats du Golfe, qui plaçaient eux aussi leurs revenus dans les banques nord-américaines ou dans les banques européennes. Donc, afflux massif de dollars pendant plusieurs années. Quel est l'intérêt des banques? L'intérêt des banques est que ces dollars qui sont dans leur coffre ne dorment pas dans leur coffre, mais leur rapportent. Donc, elles ont intérêt à prêter cet argent à ceux qui en ont besoin, quitte à créer le besoin. Qui est-ce qui a besoin de capitaux dans les années 60 ou 70? Ce sont essentiellement les pays d'Asie et les pays d'Afrique qui viennent d'être, entre guillemets, indépendants, souverains, même s'ils ne le sont pas dans les faits, et les pays d'Amérique latine qui, eux, sont en phase d'industrialisation très rapide, ils sont indépendants depuis un siècle et demi déjà, mais ils sont en phase d'industrialisation. Donc on va inciter ces pays à emprunter des quantités massives de dollars. Et comment on incite un pays à emprunter? Ben, on l'incite en proposant des taux d'intérêt très bas. Donc c'est financièrement intéressant pour lui d'emprunter. Mais tous ces pays vont emprunter de plus en plus, donc ils vont devoir rembourser de plus en plus. Mais ils remboursent comment? Ils remboursent forcément dans la monnaie dans laquelle on leur a prêté. Celui qui a des dollars et qui prête de l'argent à un pays africain n'a pas envie de récupérer des francs CFA ou n'importe quelle monnaie de singe, comme on dit, pour les pays d'Afrique. Il a envie de récupérer des dollars à la fin. Mais comment le pays d'Afrique fait pour lui rembourser des dollars? Il faut qu'il exporte à quelqu'un qui a des dollars des produits qui l'intéressent. Voilà pourquoi les pays d'Afrique sont devenus d'un seul coup absolument dépendants de leurs exportations. Et donc leur production n'était plus une production destinée à l'alimentation, c'était plus des productions vivrières, c'est réduction des surfaces pour les cultures vivrières et augmentation des surfaces pour les cultures de rente, pour l'exportation, donc le thé, le café, le cacao, le coton, l'arachide, le sucre, la banane, etc. On leur disait, mais le manioc, le mil, le sorgho, tout ça, mais nous, ça nous intéresse pas, on n'en mange pas. Le blé, on vous en enverra, n'en faites pas, faites du coton. Nous, le coton, on n'a pas le climat pour ça, faites du coton. Et ils sont mis à faire de plus en plus de coton. Donc le Burkina Faso a fait de plus en plus de coton, le Mali a fait de plus en plus de coton, le Bénin a fait de plus en plus de coton, le Tchad a fait de plus en plus de coton. Mais comme c'est la crise à partir du milieu des années 70 au nord, eh bien, il n'y a pas de débouchés supplémentaires. Et donc il y a une offre qui augmente de façon très importante de la part des pays du Sud, et une demande qui, au niveau mondial, stagne. Ben, d'après les principes de l'offre et de la demande, les prix commencent à s'effondrer. Donc à partir de 1975, les prix des matières premières commencent une chute qui va durer plus de 25 ans. Et dans le même temps, les États-Unis vont accélérer l'arrivée à ce qu'on a appelé la crise de la dette, parce que ils ont augmenté de façon très importante, multiplié par plus de 3, leur taux d'intérêt à la fin des années 70. Alors qu'est-ce que ça veut dire augmenter les taux d'intérêt et multiplier par 3? Le but des États-Unis était, où la crise s'est installée aussi, était de relancer leur économie par un grand programme militaro-industriel. Et pour relancer avec un grand programme, il faut attirer l'argent dans le pays. Comment on attire l'argent dans un pays? En le payant cher. Payer cher, c'est avoir un taux d'intérêt élevé. C'est-à-dire que du jour au lendemain, celui qui avait beaucoup de capitaux, je prends un exemple, imaginez que Raoul Marc Génard ait beaucoup de capitaux. C'est un cas d'école, hein.
Oui.
Il a beaucoup de capitaux. Jusqu'à présent, il les prêtait au pays du Sud parce que c'était le débouché naturel, il y avait à peu près qu'eux qui pouvaient absorber telle quantité de capitaux. Et puis d'un seul coup, les États-Unis disent, nous on en veut et on les paye beaucoup plus cher. Raoul, qui est motivé que par le profit, c'est bien connu, il va arrêter de prêter au pays du Sud et il va se mettre à prêter aux États-Unis parce que ça va lui rapporter davantage. Donc pour les pays du Sud, il y a un arrêt des nouveaux prêts de la part des banques privées notamment, qui elles sont motivées par le profit. Il y a une baisse des revenus parce que les cours des matières premières s'effondrent. Et comme les taux d'intérêt ont été multipliés par 3, et comme les prêts qu'on leur avait consentis étaient à taux variable et indexés sur les taux anglo-saxons, eh bien on exige du jour au lendemain qu'ils remboursent 3 fois plus d'intérêts. Donc revenus en baisse, fin des nouveaux prêts, et ils doivent rembourser 3 fois plus d'intérêts. Il y a un moment où ça ne tient plus. Donc c'est la crise de la dette qui explose en 1982, c'est le Mexique, le premier pays qui dit « nous, on est désolé, on peut plus rembourser ». Et puis 14 autres pays d'Amérique latine disent « nous non plus, on n'arrive plus à rembourser ». Alors qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y a deux façons de venir en aide à un pays qui est en crise de la dette. Soit on vient aider les populations, soit on vient aider ses créanciers. À votre avis, on est venu aider qui? On est venu aider évidemment les créanciers. Et c'est le FMI qui a été chargé de gérer la crise de la dette. Le FMI venait voir tous les pays surendettés qui n'arrivaient plus à rembourser. Il leur disait « plus personne ne veut vous prêter d'argent, nous on va vous prêter de l'argent, mais à une condition, c'est que vous appliquiez la politique économique que nous allons décider à votre place ». Certains pays n'ont même pas connu une décolonisation politique ou économique. Un pays comme le Gabon, j'ai lu dans un livre, je vous conseille un livre de Maurice Robert, c'était une ancienne crapule, je vais le dire comme ça, mais ancien ambassadeur de France au Gabon, ancien membre des services secrets, ancien membre d'ELF, et il est décédé maintenant, il a fait un livre qui s'appelle « Ministre de l'Afrique », où il dit dedans que le premier président gabonais, qui s'appelle Léon Mba, voulait demander à la France que le Gabon devienne un département français. Vous imaginez la puissance, la volonté d'être souverain politiquement, quand le premier chef d'État indépendant d'un pays demande à ce que ça devienne un département français. Donc certains pays n'ont même pas connu de décolonisation. Mais ceux qui avaient quand même un réel début d'émancipation, eh bien on a remis le grappin dessus, le capital international a remis le grappin dessus par l'intermédiaire de la crise de la dette. Et le FMI va imposer ce qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel, c'est-à-dire que, on peut détailler ça aussi dans les questions si vous voulez, mais grosso modo, réduction des budgets sociaux, santé, éducation, écoutez bien parce qu'on entend les mêmes choses aux informations ici, hein, donc il y a un lien intéressant à faire avec Maastricht. Donc réduction des budgets sociaux, dévaluation de la monnaie, suppression des subventions aux produits de première nécessité pour qu'ils soient abordables aux plus démunis, on leur dit ça rapporte rien, il faut supprimer ça. Libéralisation de l'économie, ouverture des marchés, privatisation des entreprises rentables, etc., etc. Et donc on impose ce modèle économique partout où la crise de la dette sévit, et donc un par un, tous les pays du Sud tombent sous ce joug-là. Certains vont commencer dès 1981-1982. Les pays d'Asie du Sud-Est vont attendre la crise de 97, mais ils vont aussi être en crise de la dette, et on va aussi leur imposer des réformes drastiques de leur économie, dans le sens de Margaret Thatcher, de Reagan et de tous ceux qui ont promu ce modèle-là. Aujourd'hui, on arrive à un moment, à un virage. C'est-à-dire que la contestation est de plus en plus forte face à ce modèle-là, et donc, au lieu de changer la base même du modèle, ils ont changé le vocabulaire. On ne parle plus de programme d'ajustement structurel, parce que universellement, c'est reconnu comme étant profondément néfaste pour les populations les plus démunies. On parle maintenant de cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. C'est merveilleux comme expression. Mais la logique est exactement la même. On va saupoudrer quelques petits budgets sociaux, mais on va absolument pas changer fondamentalement la donne. Je vous donne un exemple. Dans un pays d'Afrique subsaharienne, on a dit, voilà, on va construire 500 cases de santé et 500 écoles. Comment voulez-vous être contre ? Forcément, nous dire, qu'est-ce que vous en pensez ? Bah oui, sur le principe, c'est une bonne nouvelle. Mais comme dans le même temps, ils sont sous ajustement structurel, comme dans le même temps, ils sont sous accord avec le FMI, ils n'ont pas le droit d'augmenter la masse salariale de la fonction publique. Donc on construit 500 cases de santé, mais l'État n'a pas le droit de recruter et de former des aides-soignants, des médecins. On construit 500 écoles, mais l'État n'a pas le droit de recruter et de former des enseignants. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, il va se passer que dans cette école, si on veut qu'elle marche, il faut que les parents d'élèves payent le salaire de l'enseignant. Et donc, ceux qui sont les plus démunis n'auront pas accès davantage à l'éducation ou n'auront pas accès davantage à la santé. Donc, cette mécanique-là, Malgré le changement du discours médiatique, cette mécanique, elle est toujours bel et bien en place et elle a même été relégitimée par ce changement de vocabulaire. Donc je vous disais, notre annulation de dette à nous n'est pas du tout la leur. C'est quoi la leur ? C'est, on écrème la partie supérieure de la dette. Grosso modo, on annule ce que les pays n'arrivaient pas à rembourser. Mais du coup, ils vont rembourser toujours au maximum de leur capacité financière. Nous, l'annulation de dette, c'est une annulation totale et inconditionnelle de la dette extérieure publique de tous les pays en développement. Et qui doit permettre d'enclencher une autre logique, pas une fin en soi, comme c'est le cas pour la Banque mondiale et le FMI. Pour eux, on annule la dette, ça permet que le système n'explose pas, et donc ça permet qu'il se perpétue, et que le mécanisme de domination qu'a décrit Raoul Marc Génard tout à l'heure puisse continuer d'opérer de façon aussi violente et aussi brutale. Notre annulation de dette à nous, c'est la première étape vers un autre modèle économique. Alors je vais donner quelques pistes, si vous voulez, qu'on pourra détailler ensuite. Qu'est-ce que j'appelle autres étapes ? Par exemple, associer l'annulation de la dette à l'expropriation des biens mal acquis. On détecte toutes les sommes qui ont été détournées par les élites des pays du Sud et placées dans les grandes banques du Nord. Mais pour ça, il faut plus qu'il y ait de paradis fiscal. Donc on supprime les paradis fiscaux, c'est pas compliqué. On dit demain, l'argent qui est dans un paradis fiscal n'existe pas, il peut plus réintégrer l'économie réelle, celui qui a planqué de l'argent là-bas, il est bien monté. Donc on supprime les paradis fiscaux, ça peut être fait en 24 heures, top chrono. On exproprie toutes les sommes qui ont été détournées par les dictateurs et on les rend aux populations dans des fonds de développement nationaux contrôlés de A à Z par les populations. Ce sont elles qui gèrent l'argent, qui définissent les projets. De quel droit la Banque mondiale ou n'importe quelle ONG du Nord dirait « il faut faire un puits ici » si les populations veulent un dispensaire là. Ce sont à elles de mettre les seules conditionnalités admissibles. Donc, expropriation des biens mal acquis, on rend l'argent aux populations qui en ont été spoliées. Ensuite, des mécanismes de répartition équitable de la richesse à l'échelle planétaire. Impôts exceptionnels sur les grosses fortunes. Une idée avancée par la CNUSED, c'était un impôt exceptionnel, donc une fois, vous allez comprendre pourquoi, une fois. Un impôt exceptionnel de 10% de la richesse des 10% les plus riches de chaque pays. Une fois, parce que sinon, au bout de 10 ans, ils ont plus grand chose. Alors, on peut dire, 10%, on peut dire 20, 30 ou 50, je veux dire, cela, il en restera de toute façon largement assez pour survivre. Des mécanismes comme une taxe de type Tobin proposée par Attac, taxe sur la spéculation internationale. Une taxe sur les bénéfices des sociétés transnationales. Vous savez que l'an dernier, Total a réalisé le plus gros bénéfice de l'histoire d'une entreprise française. 13 milliards d'euros. Pourquoi ça irait uniquement aux actionnaires, tout cela? Et puis, j'ai envie d'avancer l'idée de réparation. Après 500 ans de pillage, d'esclavage, de colonisation, peut-être qu'on pourrait se demander si ce ne sont pas au contraire les pays du Sud, en tout cas les populations du Sud, qui devraient être les créancières d'une dette historique que devraient payer ceux qui ont profité de l'esclavage, du pillage et de la colonisation. Je veux associer tout cela à des réformes d'ordre général que je brosse en quelques mots. Un droit au protectionnisme, qui va évidemment à l'encontre des préceptes de l'OMC. Un droit absolu à la souveraineté alimentaire, dans le cadre du Salon Marjolaine. Un droit de choisir une agriculture paysanne et biologique. Une réforme agraire radicale pour que les mouvements sans terre aient enfin satisfaction. J'ajoute l'émancipation des femmes, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et on se rend compte qu'on a mis par terre complètement le modèle économique néolibéral. Pour conclure, je veux dire que si, quand on analyse le modèle actuel, il faut surtout pas faire l'erreur de parler de rapport Nord-Sud. C'est pas du tout un match de foot entre le Nord et le Sud ou entre les Noirs et les Blancs. Le bon clivage, quand on parle de la dette, quand on parle de mondialisation, c'est entre ceux qui profitent et ceux qui subissent. Ceux qui profitent, ce sont les créanciers. Ceux qui profitent, ce sont les élites des pays du Sud qui en détournent une partie et qui se la mettent dans la poche. Ceux qui subissent, ce sont les populations du Sud, mais ce sont aussi les populations du Nord qui, sans subir la même chose, subissent une logique qui est comparable. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Damien. Je pensais pas que ça serait si drôle de parler de la mondialisation libérale. Moi, je vais l'être un petit peu moins, et dans la suite de ce que dit Damien, enfin, d'abord, je décèle un point commun aux deux premières interventions, qui est la question de la souveraineté, hein, souveraineté alimentaire, souveraineté des peuples. Ça revient souvent dans la bouche de ces intervenants. Ensuite, je voulais simplement indiquer que si vous voulez mesurer l'ampleur des dégâts, aujourd'hui, il y a deux jours, a été rendu public un rapport qui est celui du programme des Nations Unies pour le développement humain. C'est quelque chose, c'est une rareté qu'on peut facilement d'ailleurs se procurer sur le site internet de cette agence. Et vous aurez un petit peu l'ampleur, vous pourrez mesurer l'ampleur de ces dégâts. Il y a deux volets d'ailleurs dans ce rapport. Il y en a un qui est consacré cette année à la crise mondiale de l'eau, qui est un sujet récurrent et qui est une crise mondiale dont on ne parle jamais. Ensuite, le deuxième volet est consacré aux indicateurs de développement humain. Vous lisez ça, vous verrez, il y a même des synthèses, c'est très facile à comprendre et vous aurez une mesure des effets donc de cette mondialisation libérale. Voilà, je m'arrête là, je passe tout de suite la parole donc à Frédéric.
Merci. D'abord, laissez-moi remercier Nelly Peugeot et l'association Nature et Progrès de m'avoir donné l'occasion de prendre la parole lors de cette réunion. Je regrette de ne pas avoir suffisamment l'occasion, ou plus exactement, de ne pas suffisamment me donner les occasions de sortir de mon ermitage académique et de participer à ce genre de réunion. Je ne suis pas absolument certain que d'ici 2 heures ou 1 heure, nous aurons changé le monde, mais je me dis que c'est par le long, lent et patient cumul d'événements de cette sorte qu'il finira peut-être un jour par changer. Bon. Par ailleurs, je voudrais m'autoriser doublement de mon statut d'universitaire pour d'une part tenir un propos peut-être un petit peu plus abstrait, un petit peu plus austère, et également pour prendre le risque de dire des choses qui pourront attrister. Je veux dire, si vous voulez, je ne me sens sous aucune obligation, ni de résultat, ni de moyen de mobiliser les foules, et je vois bien par contre tout ce que l'analyse avec ses propriété un peu brutale de lucidité peut avoir parfois de déprimant, de démobilisateur, voilà, et de difficile à entendre pour tout dire. Donc je m'en excuse par anticipation et je voulais vous en faire l'avertissement dès maintenant. Bon. Ceci étant dit, il y a dans cette... oui, évidemment, si vous voulez, quand on commence à lutter contre quelque chose, autant avoir la connaissance exacte de ce contre quoi on va lutter. Et parfois, la bête est un peu difficile à saisir. Là, on en a une qui est particulièrement rétive. Bon. Alors, tout ceci étant dit, évidemment, c'était une excellente idée hein, de mettre ce thème de la fatalité dans la problématique de notre réunion. Pourquoi ? Parce que, comme vous le savez, la naturalisation des contraintes économiques et sociales est l'un des éléments les plus caractéristiques de ce qu'un grand sociologue qui s'appelait Albert Hirschman a appelé la rhétorique réactionnaire. Et on pourrait très bien appliquer cette analyse-là à la rhétorique conservatrice, à la rhétorique néolibérale. Évidemment, tout le discours de la mondialisation joue à fond de ce topos de naturalisation et veut nous donner à croire que ce sont les forces du cosmos qui sont à l'œuvre. Alors, moi, je me souviens d'avoir eu le privilège insigne d'interviewer avec un camarade avec qui on faisait un documentaire, un ministre de l'industrie socialiste, dont je vais vous dire le nom dans un instant, et qui expliquait, grave, mais néanmoins satisfait, que la faute historique de la gauche avait été de ne pas avoir fait suffisamment de pédagogie pour expliquer aux salariés que les lois de la mondialisation s'appliquaient et s'imposaient à eux, qu'ils le veuillent ou non, et sur le même modèle que la loi de la gravitation universelle. Et oui, et cet individu réjoui nous parlait, bien assis dans son bureau, qu'il allait d'ailleurs quitter prochainement parce que cette interview, il l'a donnée le 23 avril 2002, soit 2 jours après un certain 21 avril. Et si vous voulez, mon camarade et moi, nous en étions les yeux écarquillés comme des soucoupes et la mâchoire pendant comme un tiroir de commode fracturé, parce que c'était trop beau pour être vrai, quoi. Je veux dire, la bêtise, des fois, atteint des seuils critiques au-delà desquels elle ne se connaît même plus de régulation, et elle se donne à voir et à entendre avec cette espèce de satisfaction de soi qui était absolument prodigieuse. Tout ça est dans la boîte, c'est dans un film qui s'appelle Moulinex, la mécanique du pire. Je vous invite vraiment à le voir. Bon. Évidemment, la mondialisation ne nous choie pas sur la coloquinte depuis la planète Mars. Hein. C'est pas tout à fait ça. Alors, il est utile, pour commencer à la discuter, de s'en donner une définition qui tienne à peu près la route. Qu'est-ce que c'est que la mondialisation ? C'est le processus de déréglementation générale de tous les marchés. Voilà, c'est assez simple. Hein. Mais du coup, ça pose une question qui tombe sous le sens. Les marchés se déréglementent-ils tout seuls par la force de leurs petits bras ? Évidemment, non. La déréglementation des marchés, d'ailleurs, d'ailleurs, c'est intéressant à noter, c'est un acte qui ne peut venir que de l'extérieur du marché, puisque le marché n'a en lui-même aucune propriété d'auto-institution, et par conséquent, la déréglementation des marchés et la mondialisation relèvent d'actes qui sont fondamentalement politiques. Voilà. Alors, Raoul vient de vous le dire, mais j'enfonce le clou plutôt deux fois qu'une, parce qu'en effet, il faut tellement lutter contre un discours adverse sur cette question-là, que ça n'est pas trop de dire les choses deux fois. La mondialisation est le résultat de politiques publiques. N'est-ce pas ? Alors, on pourrait citer des noms et on pourrait donner des dates. Et d'ailleurs, de ce point de vue, il le faudrait. Et les médias qui n'ont de cesse que de s'adonner à la célébration des anniversaires insignifiants. Il y a un an, bon, les banlieues, moins insignifiants tout de même. Il y a 30 ans, la première démission de Chirac. Il y a 25 ans, la mort de Georges Brassens. Ont oublié peut-être l'anniversaire le plus important qui termine par un 6 et dont il faudrait vraiment garder la mémoire, qui est celui de la loi de déréglementation financière de 1986. Voilà, ça fait 20 ans. N'est-ce pas ? Je tiens cette loi de déréglementation financière pour l'événement le plus structurant qu'ait connu la société française en un demi-siècle. Ne comptez pas sur votre chaîne de télé favorite pour vous le rappeler, n'est-ce pas ? Et l'ironie qui rejoint celle que j'évoquais à propos de mon ministre interviewé, c'est que cette déréglementation qui a été passée par une loi l'a été par un gouvernement qui est un gouvernement socialiste, où l'on découvre, n'est-ce pas, qu'en longue période, la social-démocratie ou le social-libéralisme aura vraiment été le meilleur ami de la finance. Alors, on pourrait citer évidemment plein d'autres instances à caractère fondamentalement politique et qui sont à l'ouvrage dans la promotion de la mondialisation. Raoul les a cités, l'OMC, la GCS, l'AMI, et puis toutes les institutions internationales telles que le FMI, la Banque mondiale, sans parler évidemment de l'inénarrable Commission européenne. Je pense que, de toute manière, je prêchais à des convaincus et qu'il n'y a pas beaucoup, peu nombreux sont ceux d'entre vous qui croyaient que c'était encore une loi de la nature qui était à l'œuvre sous-jacente à la mondialisation. Mais évidemment, la question de la fatalité n'est pas tant posée, ne nous est pas tant posée d'un point de vue rétrospectif, mais regarde davantage l'avenir que le passé. C'est-à-dire, ce modèle néolibéral a supposé qu'il ne se soit pas imposé par des voies fatalistes d'une nature un peu taquine. Est-ce qu'on va pouvoir s'en débarrasser. Alors évidemment, la première idée qui nous vient à l'esprit, c'est que si ça a été fait de la main de l'homme, alors ça peut être défait par les mêmes moyens. Malheureusement, et vous allez comprendre maintenant mon avertissement liminaire, je crois que les choses ne sont pas si simples. Bon, sortir du modèle néolibéral, c'est sortir du capitalisme déréglementé, c'est-à-dire c'est donner son armature institutionnelle à ce capitalisme qui est autrement débridé, c'est-à-dire inventer un capitalisme muni de ses régulations, c'est-à-dire d'un appareil de forme institutionnelle, d'ailleurs pas forcément les mêmes pour tout le monde. Or, il y a là une cruelle asymétrie en matière de transformation institutionnelle. C'est que détruire est infiniment plus facile que construire. Or, la déréglementation, c'est une destruction des cadres institutionnels qui préexistaient. Mais vous avez vu, ça a été fait, c'est fait en un trait de plume, ça, hein. Une loi en 1986 a mis à bas littéralement des formes institutionnelles qui avaient considérablement encadré, corseté et restreint la finance pendant les 30 années qui avaient suivi le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et pourquoi se heurte-t-on systématiquement lorsque on entreprend de reconstruire des institutions, c'est-à-dire de re-réglementer à des obstacles qui nous paraissent si difficiles à surmonter? C'est tout simplement parce que l'ordre des choses oppose toute sa force d'inertie, et derrière cette force d'inertie, le travail tout à fait humain des groupes d'intérêts à qui cet ordre des choses est tout à fait favorable, et qui, par construction, étant les dominants de la configuration en place du capitalisme, sont ceux qui sont les mieux placés pour la défendre et pour la faire durer. Imaginez un seul instant la difficulté qui s'opposerait à transformer les structures de la finance sur une base européenne, alors que dans l'Union européenne, il y a un État, la Grande-Bretagne, qui a recalé toute la spécialisation de son économie nationale sur la finance. Déréglementer, re-réglementer la finance, c'est attenter immédiatement aux intérêts de l'industrie financière anglo-saxonne. Donc vous voyez l'ampleur des difficultés. Les transformations institutionnelles ont été possibles, mais le plus souvent à la faveur de grandes convulsions historiques. Si le fordisme a pu sortir presque tout armé des lendemains de la Seconde Guerre mondiale avec une sécurité sociale, des conventions collectives, un nouveau rapport capital-travail, des banques nationalisées, des grandes entreprises nationalisées, EDF, etc., c'est parce qu'on opérait sur une tabula rasa institutionnelle et politique qui avait disqualifier par délégitimation les dominants économiques qui s'étaient compromis pendant la collaboration, etc., etc. Toute la question, c'est celle d'une ingénierie institutionnelle à froid. Et là, je suis obligé de vous dire que le problème est sacrément compliqué. Et notre très cher président de séance vous annonçait qu'en un quart d'heure, j'allais ramasser la mise et vous sortir tout armé la solution de dépassement du modèle néolibéral. Malheureux, j'aimerais bien l'avoir seulement en tête. Il y a belle lurette que je l'aurais mise en ligne, que je l'aurais écrite et qu'elle serait dans le domaine public. Malheureusement, les choses ne sont pas si faciles que ça. Alors, je voudrais, d'un mot, si j'ai encore un instant, je voudrais prolonger un tout petit peu cette discussion en tirant parti de l'opportunité qui m'est fournie par la publication récente du livre de Joseph Stiglitz. Prix Nobel d'économie. Vous savez, quand un économiste aussi distingué que Joseph Stiglitz est revêtu de toutes les cautions académiques, prend un parti critique contre la mondialisation, et il ne faut pas bouder son plaisir, n'est-ce pas? Alors pour autant, moi, c'est une lecture, d'abord, que je vous incite à faire et qui m'a inspiré des sentiments mêlés. Parce que, si vous voulez, l'éditeur français a été un peu filou sur ce coup-là. Il a traduit l'ouvrage de Stiglitz par « Un autre monde » qui fonctionne comme une espèce de test de Rorschach. Chacun peut y projeter ce qu'il veut, n'est-ce pas? Mais le titre originel n'était pas exactement celui-là. En anglais, « Making Globalization Work », c'est-à-dire « Faire marcher la globalisation ». Ce qui nous renvoie moins à un autre monde que à une espèce de dialectique entre la mauvaise et la bonne mondialisation. Alors pour Stiglitz, la mondialisation est un projet en soi qui garde toute sa valeur. Simplement, il faut le conduire correctement, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à présent. Et qu'est-ce que ce serait la bonne mondialisation? Ça serait une mondialisation qui n'aurait pas oublié en cours de route précisément son volet institutionnel et politique. Ça serait une mondialisation politique parachevant la mondialisation économique. Alors, c'est une idée qui est tout à fait intéressante puisqu'elle a au moins le mérite de nous faire rompre avec cette espèce d'axiome libéral qui veut que le seul face-à-face bilatéral des agents sur des marchés soit en soi suffisant pour produire le meilleur des mondes. Or, nous rappelle Stiglitz, un peu tardivement d'ailleurs, si l'on compare à ce qu'ont raconté tous ses travaux académiques antérieurs, mais mieux vaut tard que jamais, ce que nous raconte Stiglitz, c'est qu'un capitalisme sans ses institutions de régulation est voué à connaître les plus graves déséquilibres économiques et sociaux. Très bien, institutionnalisons donc le capitalisme international. Mais Stiglitz lui-même, à son corps défendant d'ailleurs, et peut-être inintentionnellement, nous raconte toute la difficulté de l'entreprise. Il nous parle de l'OMC, c'est à Raoul qu'il appartiendrait de traiter ce sujet. Je m'y avance, mais comme un amateur. Ce que nous montre Stiglitz est un spectacle tout à fait édifiant et qui vous dégrise des harmonies libérales du commerce international. L'OMC est une arène où ne règnent que les rapports de force, les rapports de puissance à nu, les contrats bafoués, les promesses reniées, les bras de fer, les abus de la force de toutes sortes, les pressions de toute nature. C'est une espèce d'état de nature, comme diraient les philosophes du politique du XVIIe siècle, n'est-ce pas? Et Stiglitz de nous dire, évidemment, dans cet univers à si basse pression institutionnelle et politique qu'est l'OMC, il ne peut en être qu'ainsi, c'est-à-dire seuls les rapports de force prévaudront, et comme disait Spinoza, les gros poissons mangeront les petits. Bien. Comment faire pour qu'il en soit autrement? Mais évidemment, la question est extrêmement difficile. Je veux dire, à supposer même qu'on créditerait l'OMC dans sa configuration actuelle, et en particulier en son directeur général actuel, de ne pas être éhontément au service des intérêts commerciaux dominants, ceux des États-Unis et ceux de l'Europe. Elle ne parviendrait pour autant en aucun cas à être le modérateur de ces rapports de force, elle ne peut qu'en être la chambre d'écho. Et pourquoi? Tout simplement parce que l'OMC est une sous-institution et qu'elle ne dispose d'aucun des moyens de force concrets qui permettraient d'arraisonner les puissances débridées qui sont à l'œuvre et qui s'affrontent dans son arène. Alors Stiglitz nous propose bien des choses intéressantes, n'est-ce pas? Il nous dit « Il suffirait que les plus riches ouvrent simplement leur marché aux plus pauvres, sans réciprocité, sans conditions économiques ni politiques. » Il suffirait. Il faut une instance judiciaire mondiale indépendante pour déterminer s'il y a eu ou non dumping, et si oui, quel doit être le montant des droits anti-dumping. Mais quelle serait l'autorité de cette institution? Il faut qu'un accord international reconnaisse les savoirs traditionnels et interdise la biopiraterie. Oui, il le faut, etc., etc. Et ce ne sont donc que vaines paroles, rêves de singes et propos sans suite. Et pour une raison tout à fait fondamentale. C'est que pour qu'une institution internationale dispose effectivement des moyens de l'enforcement, comme disent les anglo-saxons, c'est-à-dire les moyens d'arraisonner les puissances particulières qu'elle couvre, pour les amener à récipiscence, il faut qu'elle soit adossée à une communauté politique. C'est d'une communauté politique que vient la force collective d'arraisonner des intérêts particuliers. Or, cette communauté politique pertinente pour l'OMC, qui serait nécessairement une communauté politique mondiale, je suis au regret de dire que je n'en vois pas le début du commencement d'un linéament à l'horizon. Je ne dis pas qu'elle ne se pointera pas un jour, mais je veux dire, il faudrait poser aux ajustements institutionnels la même question que Keynes posait en son temps aux ajustements de marché. Dans le long terme, ne serons-nous pas tous morts ? Effectivement, c'est bien là la question. J'en tire la double conclusion suivante, qui est premièrement qu'il est insensé et irresponsable d'opérer tout prolongement, toute extension de la déréglementation libérale sans avoir préalablement doté ces nouveaux marchés interconnectés de leurs institutions munies en bonne et due forme d'une autorité effective, et que si incapable, s'abstenir. Et qu'à cette aune-là, il y a beaucoup de domaines de la libéralisation et de la mondialisation qui ne remplissent pas ce critère, et par conséquent, il nous faut défendre ce que j'appellerais un rollback agenda, pour reprendre un terme qui avait été employé par les conservateurs anglo-saxons, ceux qui ont été les artisans de la mondialisation, et pour qui le rollback agenda consistait à revenir sur tous les acquis du salariat tels qu'ils avaient été conquis à la faveur de cette époque qu'on a appelée le Fordisme. Eh bien, il est temps d'appliquer maintenant à la mondialisation elle-même un rollback agenda, c'est-à-dire en bon français, de rembobiner la mondialisation.
Merci beaucoup. Merci Frédéric. Bon, on a eu là trois excellentes interventions. Moi aussi d'ailleurs je remercie Nature et Progrès d'avoir fait appel à l'hebdomadaire Politis pour animer ce débat. Bon, je vais juste un petit mot d'ailleurs pour vous dire que je remplace Denis Sieffer, l'actuel directeur de rédaction de l'hebdomadaire Politis, parce que vous savez peut-être que ce journal est dans une situation de sauvetage. Il y a eu de très très nombreuses contributions qui vont permettre d'ailleurs le sauvetage de ce journal. Et s'il n'est pas là, c'est que je vous remercie. S'il n'est pas là, c'est que dans la précipitation, on est dans la précipitation pour fournir les derniers éléments au tribunal de commerce qui nous a dans un premier temps convoqué mercredi et qui va nous reconvoquer le 15 novembre. Et donc ces documents doivent être fournis lundi, et c'est pour cette raison qu'il n'est pas là que je le remplace. Je pense que vous savez que on avait lancé l'idée qu'il y aurait l'objectif d'un million d'euros, il est quasiment atteint, hein, je vous dis tout de suite. C'est une souscription assez exceptionnelle sur laquelle on reviendra et qu'on analysera, parce que là il y a certainement aussi une volonté politique, ou enfin il y a plein de mots nous ont été envoyés, et il y a toute une réflexion à mener autour de ça. Voilà, j'arrête là. On va lancer donc le vrai débat. Vous avez pu entendre ces trois excellentes interventions. Donc il y a une personne dans la salle qui est Nelly avec un micro. Donc si vous souhaitez les premiers volontaires, là je vois qu'il y a une personne ici, poser une question. Alors essayez de préciser à qui vous voulez vous adresser, et essayez vraiment de poser des questions, parce que vous avez trois personnes.
Je vais m'adresser à monsieur Damien Millet, dont j'ai particulièrement apprécié le début de son intervention, de son exposé. Surtout quand vous avez rappelé très justement de quelle manière les taux d'intérêt, c'est-à-dire tout ce qui a été prêté aux pays du tiers-monde, comment les taux ont été augmentés d'une manière arbitraire sur une période de 2 ans, et comment les taux, c'est-à-dire les placements en capitaux aux États-Unis, ont été également augmentés via le pétrodollar. Je souhaiterais simplement préciser, j'espère que vous serez d'accord avec moi pour le dire, que à partir de ces décisions, les États-Unis se sont remboursés la guerre du Vietnam. Le deuxième aspect, c'est qu'une guerre, c'est ce qui coûte cher à un État, qui passe par pertes et profits. Et pour la première fois de son histoire, les États-Unis sont confrontés à une guerre qu'ils ont menée eux-mêmes et dont personne ne rembourse le moindre centime. Et nous avons affaire au plus grand État, à la superpuissance qui est en fait un colosse au pied d'argile, puisqu'il est devant un gouffre financier abyssal. Et ça peut s'effondrer en 48 heures. Je vous remercie de nous donner des précisions à ce sujet.
Alors effectivement, les États-Unis, avec la hausse des taux d'intérêt, ont du coup capté une grande partie de l'épargne mondiale et continuent aujourd'hui de capter une grande partie de l'épargne mondiale, mais ça repose uniquement, comme vous le dites, sur la confiance. Les investisseurs, pense que l'économie américaine est l'économie la plus solide, celle qui peut permettre un retour sur investissement le plus juteux sur le long terme, et donc prête aux États-Unis pour combler ce déficit, ce double déficit commercial et budgétaire abyssal. Effectivement, si les perspectives de croissance aux États-Unis et les perspectives de profit pour les investisseurs se révèlent moindres que ce qui est espéré, il se peut très bien que, comme on a connu ça en Asie du Sud-Est ou au Mexique ou ailleurs, eh bien que les investisseurs retirent leurs capitaux des États-Unis et aillent les mettre ailleurs où ils pensent qu'ils seront plus rentables. Et du coup, effectivement, le château de cartes peut s'effondrer et l'économie américaine peut s'effondrer. Donc on est peut-être à la veille d'un séisme de ce point de vue-là, peut-être pas. Peut-être qu'on est à la veille d'une autre crise de la dette. Parce que les ressemblances existent. Quand la première crise de la dette, on dit souvent, vous savez, il y a la corruption dans le Sud. Oui, mais il y a des corrupteurs au Nord aussi. Le clivage est celui que j'ai expliqué à la fin, hein, entre ceux qui subissent et ceux qui profitent, pas entre le Nord et le Sud. J'ai perdu le fil de ce que je disais. Je reviens aux États-Unis. Sur la guerre en Irak, vous dites personne ne paye cette guerre actuellement. C'est vrai. Mais il faut voir que l'Irak avait une dette colossale. Et les États-Unis, du jour au lendemain, ont dû prendre en charge le remboursement de la dette irakienne. Alors ça l'a pas du tout, ça. Bush n'a pas envahi l'Irak pour rembourser les dettes de Saddam Hussein. Et il a commencé à dire, ah mais puisque Saddam Hussein était un dictateur, sa dette était odieuse. Donc on n'a pas à la rembourser. Et effectivement, il y a un concept juridique très précis, qui est le concept de dette odieuse. Quand une dette a été contractée par un régime qui n'est pas légitime, qui est autoritaire, qui est dictatorial, qui est corrompu, et que cette dette n'a pas profité aux populations, mais a profité au régime pour qu'il se renforce au pouvoir, eh bien cette dette doit être remboursée par les tenants du régime lui-même à titre personnel, et pas du tout par l'État. Et donc un gouvernement démocratique qui lui succède est tout à fait fondé à dire « on ne reconnaît pas cette dette, on ne la rembourse pas ». Donc effectivement, les États-Unis avaient le droit de dire « la dette de Saddam Hussein est une dette odieuse, le nouveau régime irakien que nous contrôlons, que nous sommes, ne reconnaît pas ». Bush a donné cet argument-là en avril 2003. Le lendemain, il y avait un éditorial dans le Financial Times qui disait, avec d'autres mots que ceux que je vais dire là, mais ça voulait vraiment dire ça, écoute mon petit gars, tu joues pas avec ça. Le remboursement de la dette, c'est sacré, parce que si tu commences à faire ça en Irak, ça va être fait en Indonésie, au Zaïre, au Chili sous Pinochet, etc. Et ils ont plus rien remboursé. Donc tu te débrouilles comme tu veux, mais tu sors pas l'argument de la dette odieuse. Nous, on était prêts à sauter dessus, parce qu'effectivement, il peut s'appliquer dans la moitié des pays de la planète. Et donc, ce qu'a fait Bush à ce moment-là, c'est qu'il a demandé au Club de Paris, une institution dont on n'a pas parlé pendant les exposés, mais qui est une institution très importante, c'est le regroupement de 19 pays créanciers qui est hébergé à Bercy, c'est pas le Paris Saint-Germain, hein, c'est qui est hébergé à Bercy au sein du ministère des Finances et qui gère la dette bilatérale des États. Eh bien, il est passé au Club de Paris. La France ne voulait pas faire plus de 50% d'annulation parce qu'elle disait l'Irak n'est pas un des pays les plus pauvres de la planète. Les États-Unis voulaient faire 100% d'annulation parce que c'est eux qui remboursaient à la place de l'Irak. Et ils sont arrivés à un accord à 80% en trois fois. 30% tout de suite, 30% à la signature d'un accord avec le FMI et 20% à la fin de l'accord avec le FMI. Et donc on a annulé 80% de la dette de l'Irak. Donc il y a quand même eu un geste qui a été fait et qui a été demandé aux pays qui étaient opposés à la guerre. Et le Club de Paris a été l'instance qui a légitimé cette opération-là. Et donc, on parlait des anniversaires tout à l'heure avec Frédéric. Le Club de Paris a 50 ans cette année. On leur a souhaité un mauvais anniversaire parce que ce sont des escrocs, parce qu'ils organisent cette domination avec le FMI, avec la Banque mondiale, etc. Et lors du 50e anniversaire du Club de Paris, où j'ai réussi à être invité, devant le parterre de gens, vous êtes vous très bien, nombreux, ils étaient nombreux aussi, moins bien que vous, mais très connus. Hein. Il y avait Michel Candessus, ancien directeur général du FMI, Jacques Delarosière, ancien directeur général du FMI, et tout ça. J'ai réussi une fois à prendre la parole, et je terminais mon intervention en disant qu'à titre personnel, je souhaitais que cet anniversaire soit le dernier. C'est une anomalie institutionnelle, ce Club de Paris, et il serait important de braquer les projecteurs dessus. Voilà.
Alors, une autre intervention ici. Je rappelle tout de même qu'on n'a pas beaucoup abordé les questions environnementales alors que nous sommes au Salon Marjolaine, mais peut-être que ça viendra. Peut-être qu'une question intervient.
Non, moi, c'est une question pour Frédéric Lordon au sujet du gouvernement mondial. Est-ce que ce gouvernement, il serait pas plus facile de le mettre en place déjà au niveau de l'Europe? Et est-ce que le fait d'avoir dit non à la Constitution européenne donnerait pas une piste pour que on puisse essayer? Je voudrais savoir ce que vous en pensez.
Si vous voulez, votre question concentre absolument toutes les ambivalences dans lesquelles je me débat chaque fois que je suis amené à réfléchir à ces questions d'organisation politique de la mondialisation, car on ne peut spontanément que répondre par l'affirmative à votre proposition et, dans la minute qui suit, être absolument désespéré de lui donner un contenu satisfaisant. Bien sûr, le gouvernement mondial ne surgira pas immédiatement et il tombe sous le sens d'envisager une étape intermédiaire au niveau qu'on qualifie maintenant de régional, qui sont pas les régions Poitou-Charentes, etc., hein, n'est-ce pas ? C'est plutôt le regroupement de nations, donc en particulier à l'échelle européenne. Mais évidemment, vous voyez toute la difficulté, et quand on connaît le cours pris par la construction européenne qui se prétend bouclier contre la mondialisation et qui inscrit dans sa charte des droits fondamentaux, c'est-à-dire qui élève à l'échelle des principes sacrés la liberté de circulation des mouvements de capitaux, évidemment, on peut être qu'extrêmement désenchanté. Alors, le coup d'arrêt donné à la Constitution était évidemment la chose la plus merveilleuse qui nous soit arrivée depuis très très longtemps, j'arrive même plus à dire depuis combien de temps. Je ne puis faire davantage que de mobiliser la sagesse populaire qui veut qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre patati patater, pour signaler que effectivement c'est là que qu'on le veuille ou non se joue notre destin et que se jouent nos chances de d'arraisonner la mondialisation et que c'est le combat numéro un. Évidemment. Alors ceci étant, moi je pense qu'il y a un gros effort également qui devrait être fait pour commencer à envisager des solutions à l'échelle nationale, car on ne cesse de nous raconter que rien ne peut plus être fait à l'échelle nationale. Et personnellement, après m'être longtemps laissé bourrer le mou par cet argument, je commence à en revenir un peu et je songe à quelques solutions d'arraisonnement de la finance, car il me semble que c'est là aussi le problème numéro un qui pourrait être rendu praticable à l'échelle nationale. Alors c'est un peu sadique, je vous livre ça à titre d'apéritif et je vous en dis pas plus parce que j'y réfléchis actuellement, etc. Peut-être que ça sera publié dans pas très longtemps et donc je vous donne rendez-vous bientôt. Voilà.
Ouais, faudra nous le dire, hein.
Alors, une autre question. Alors, un titre.
Le titre, ça sera une mesure contre la démesure de la finance, le SLAM. Alors, le SLAM, si vous voulez, en anglais, ça veut dire blanc ou baf. Donc, ça saisit assez bien l'esprit de la chose, hein. Et SLAM, c'est un acronyme anglo-saxon qui voudrait dire Shareholder Limited Authorized Margin, c'est-à-dire profit limité des actionnaires. Voilà. L'idée est de mettre une contrainte institutionnelle dure, hein, c'est-à-dire réglementaire et fiscale sur la rémunération actionnariale, car je pense que c'est là le point de... Enfin, il y a deux grands points de levier, si vous voulez, hein, dans la libéralisation actuelle, qui sont la finance et la concurrence. Hein, voilà. Donc, on va séparer le travail, hein, Raoul, tu veux bien, tu t'occuperas de la concurrence, moi, je avec mes petits bras, je fais pour la finance. Bon. Mais voilà, ça commande tout, hein, c'est-à-dire, si vous parvenez à arraisonner la finance dont les exigences en tendance historique ne cessent d'être divergentes, et on peut documenter ça, je veux dire, statistiquement, c'est extrêmement impressionnant, hein, je vous assure. Et c'est d'autant plus impressionnant qu'on voit pas le bout de cette dérive. Et on n'en voit pas le bout précisément parce qu'on ne voit pas les forces qui pourraient jouer comme des forces de rappel. Elles n'existent pas. Tout a été abattu. Je veux dire, c'est une steppe, hein, la finance internationale. Donc le sirocco balaye tout. C'est terrible. Bon, il faut mettre un terme à cette exigence de prélèvement actionnarial pour que, en conséquence, les entreprises ne soient plus soumises à des pressions absolument formidables, qu'elles vont répercuter sans presque aucune perte en ligne du sommet à la base hiérarchique. Et plus bas encore dans tout le tissu des sous-traitants, de telle sorte que les effets de la finance ne s'arrêtent pas aux frontières du CAC 40, hein, bien sûr, comme le disent certains. Au contraire, ces effets se diffusent et se propagent dans toute l'épaisseur du tissu industriel français par le biais des relations de sous-traitance. Donc c'est une espèce de calamité qui s'empare de toute l'économie, de toutes les économies. Voilà. Alors si on contrôle le donneur d'ordre ultime, qui est l'actionnariat institutionnel, lequel n'est à supposer qu'il y en ait parmi vous qui est dans un coin une action ou deux qui leur viendrait d'un héritage, ça serait pas honteux, hein. Mais je veux dire, c'est les fonds de pension, c'est les fonds mutuels, voilà, c'est ceux-là qui font la loi et qui demandaient 2% à qui on donnait 2% au début des années 90, puis à qui on a donné 10% au milieu des années 90, puis qui ont réclamé 15% à la fin des années 90, puis qui ont 20% au début des années 2000. Et figurez-vous que un numéro récent de The Economist s'est alors extasié et perdu en pamoison sous prétexte que Goldman Sachs, une banque d'investissement américaine bien connue, avait sorti un taux de profit actionnarial de 40%. Alors là, joie, pleure de joie. Évidemment, The Economist a reconnu que c'était exceptionnel tout de même. Mais je ne vois nulle part les forces qui empêcheraient l'exception d'aujourd'hui de devenir la règle de demain, hein, si je prolonge les tendances antérieures. Donc c'est évidemment là qu'il faut agir, en premier lieu. Alors voilà, c'est de ça que ça parlera.
Merci. Alors moi, je c'est pas The Economist, hein, mais j'ai un autre magazine. C'est la page 9 de Challenge là qui est sortie, et vous avez des fonds qui débordent, et vous voyez une courbe rouge. Donc la courbe rouge, ce sont les plus-values engrangées en 2005. Alors vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais ça explose littéralement. Alors pourquoi ça explose ? Il y a un petit mécanisme aujourd'hui qui est très à la mode, parce que bon, on est loin d'être au bout d'un capitalisme débridé, hein. Il y a un petit mécanisme aujourd'hui qui est très à la mode, qui permet justement d'avoir des rendements de faramineux, hein, de l'ordre de 30-40%, qui s'appelle le LBO, hein, ça s'appelle Leverage Buyout. Peut-être que Frédéric d'ailleurs connaît ce système, il pourra en dire plus là-dessus. C'est un effet de levier en utilisant la dette. Alors on s'attend, parce que les journaux financiers en ce moment ne cessent d'en parler, la France est un des pays phares dans ce domaine, en l'occurrence, et apparemment la bourse est en excellente santé, en partie pour ça, et on se prépare d'ailleurs à de nouvelles OPA avec des chiffres faramineux qui nous dépassent totalement. J'arrête là, peut-être qu'il y aura des questions autour de ça plus tard. Alors, il y avait une personne ici, alors oui. Allez-y.
En fait, c'est pour Marc Raoul Génard. Je voulais savoir, le non à la Constitution européenne n'a pas été suivi des faits, puisqu'on voit que le processus, de toute façon, ne s'est pas arrêté en matière de privatisation, de sociétés rentables, de dépôt de bilan en tout genre. Première question, est-ce qu'on est dans un vide juridique qui fait que on n'a pas de marge de manœuvre ? Déjà, sur ce point de vue, j'aimerais avoir votre avis. Je pars prochainement aux États-Unis. Où je suis dans la côte californienne, je vais prendre des contacts en matière d'environnement, puisque le revirement des Américains sur la question de l'environnement, je voulais avoir votre avis aussi sur la nouvelle équipe en place. Est-ce que ça va effectivement changer les choses, ou alors est-ce qu'elles vont continuer? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir de voir qu'il va y avoir une décélération de ce processus mondial qui est quand même instauré par les États-Unis? Et troisième petite question, je l'ai oubliée en route. Elle était importante, peut-être elle va revenir.
À quoi avons-nous dit non ? Nous avons dit non à la constitutionnalisation des traités existants. Parce que le traité établissant une constitution pour l'Europe, c'était essentiellement cela. Mais les traités existants continuent d'exister. D'où la pertinence de votre observation, comme de celle de dizaines de personnes qui m'ont dit « mais il n'y a rien qu'à changer ». La suite logique, d'abord la première suite logique, et il faut déplorer la forfaiture du président de la République, c'était de retirer la signature de la France, ce qu'il n'a pas fait. Enfin bon, le droit international est clair, un traité qui n'est pas ratifié par toutes les parties signataires est caduque. On est là. Même si on a entendu Madame Merkel, chancelière allemande, qui va prendre des responsabilités importantes au niveau de l'Europe le 1er janvier, il y a des volontés ici et là de ressusciter d'une manière ou d'une autre ce traité. Moi, je pense que la suite cohérente du non, mais peut-être que pour changer l'Europe, il faut se rappeler que pour ce qui nous concerne, il faut d'abord changer la France. La suite cohérente du non, c'est précisément de revoir les traités existants en s'appuyant sur les critiques que nous avons formulées. Je ne prendrai que deux exemples. Dans le traité qui nous était proposé, il n'y avait pratiquement pas, je dis pratiquement pas, de véritables avancées du point de vue de la démocratie, de la démocratisation des institutions européennes. Et en particulier, était maintenu ce qu'on appelle dans le jargon le monopole de l'initiative de la Commission. Seule la Commission peut faire des propositions. Ce qui, pour moi, est une véritable agression à l'égard du suffrage universel. Je vous donne un exemple concret. À 6 reprises, les chefs d'État et de gouvernement, donc le Conseil européen, les ministres, le Conseil des ministres, et même le Parlement européen, à 6 reprises, il a été demandé à la Commission européenne de déposer une proposition de directive sur ce qu'on appelle dans le jargon européen les services d'intérêt général, c'est-à-dire pour nous les services publics. La dernière réponse qui a été faite par Madame Kroes, commissaire européenne, c'est pas à l'ordre du jour. Donc voilà une institution qui peut refuser une demande qui vient des institutions, les gouvernements, le Parlement européen, qui ont quand même un degré de démocratie plus important que la Commission elle-même. Mais moi je dis que une des choses qu'il faut faire, et rien n'empêche un gouvernement d'une autre sensibilité que celle que nous connaissons aujourd'hui dans le paysage politique européen, de dire nous demandons l'ouverture de négociations sur tel article des traités existants qui confère le monopole de l'initiative à la Commission. Comme rien n'empêche un gouvernement qui voudrait le faire de dire il faut mettre fin à l'indépendance absolue dont jouit la Banque Centrale Européenne, qui est un véritable scandale qui se traduit dans le concret par des destructions d'emplois vu la politique de la Banque Centrale Européenne. Il y a donc un catalogue. Il y a un catalogue de propositions très précises de modifications des traités existants qui pourraient être déposées par un gouvernement qui en aurait la volonté politique. Ce n'est pas un obstacle juridique, c'est une défaillance de la volonté politique. Cette défaillance, nous la constatons, nous la subissons, mais à nous, et j'ai envie de dire, c'est la même chose pour l'OMC, même si je suis d'accord avec Frédéric, il suffit pas de dire, il suffit. Mais il y a une défaillance de la volonté politique à la fois au niveau de cette Europe dont on nous dit qu'elle doit être une Europe des citoyennes et des citoyens, mais dont on ne fait rien pour qu'il en soit ainsi, comme à l'égard de cette Organisation mondiale du commerce dont son directeur prétend qu'elle régule le commerce mondial alors qu'en fait elle passe son temps à tout déréguler. C'est la question de la volonté politique qui est au cœur de la réponse au problème qui est soulevé avec, évidemment, je ne vais pas m'étendre sur l'Europe parce que c'est un sujet en soi et on pourrait durer longtemps, mais il y a aussi des normes non dites. Moi, je vous pose simplement une question. Pensez-vous que l'Europe de nos vœux, c'est-à-dire une Europe qui serait vraiment démocratique, qui serait aussi sociale et environnementale, nous la ferons à 25 ou à 27, ou même davantage? Ce type d'Europe, c'est-à-dire, quelque part, pour un certain nombre de matières bien précises, un État européen, on ne le fera qu'avec les peuples qui le voudront, et c'est loin d'être ceux qui constituent aujourd'hui l'Union européenne. C'est une question qu'il faudrait avoir le courage de soulever avant de parler du redémarrage de la construction européenne, parce qu'on le sait très bien, pour mettre les points sur les i, l'Europe de nos vœux, on ne la fera jamais avec les Britanniques. Alors, moi, excusez-moi pour la deuxième partie de votre intervention. On ne peut pas parler de nouvelle équipe à Washington. Il y a une cohabitation à l'américaine dans un système qui est fondamentalement différent du nôtre, qui a certains aspects intéressants. Puisqu'aujourd'hui c'est le président qui va devoir composer avec un congrès, une chambre des représentants et un sénat différents, ne nous faisons quand même pas trop d'illusions. Un grand nombre d'élus démocrates ne sont pas très loin sur un certain nombre d'idées des républicains qu'ils ont battus. Et on a pu assister, puisque le néoconservatisme américain plane sur ce pays, on a pu assister quand même à des séances, à des petits déjeuners de prière organisés par des candidats démocrates. Ça vous donne quand même une image plus limitée de l'ampleur du changement qu'il faut attendre. Moi, je n'en attends pas beaucoup. Et je vous dirais même que j'attends autre chose de ce qui vient de se passer. Je ne veux pas jouer les prophètes, mais je prends peu de risques en vous disant que la première initiative bipartisane, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire qui va rassembler le président des États-Unis et ce nouveau Congrès, c'est probablement de faire des propositions qui vont relancer les négociations à l'OMC. Parce que là-dessus, il n'y a aucune différence entre les républicains et les démocrates pour ce qui est du libre-échange. Ils sont la main dans la main. Donc moi, j'attends vraiment pas grand-chose. Peut-être y aura-t-il des initiatives intéressantes sur l'Irak, puisqu'on a atteint le seuil critique de soldats américains tués pour que l'électorat américain change d'opinion. Mais je n'attends pas beaucoup d'autres changements dans la politique américaine suite à ce qui vient de se passer.
Merci. Alors, oui, allez-y, posez votre question.
Oui, j'aimerais revenir à une question qui nous concerne tous, en fait. Et puisque vous venez de dire, pour changer l'Europe, il faut peut-être changer la France et que l'Europe des citoyens ne vient pas. Je dirais que pour changer le monde, il faut peut-être changer l'individu. Et là, je voudrais en venir justement à des questions environnementales, mais pris par du côté de l'humanité. Il serait temps peut-être que l'humanité se réveille et comprenne que si elle veut la planète, elle n'a pas besoin de nous, petites fourmis humaines, pour survivre à n'importe quel cataclysme. Mais nous, on a besoin de la planète. Mais on a surtout besoin d'être efficace. Et pour être efficace, il serait temps que l'humanité s'intéresse à son développement durable, c'est-à-dire qu'elle devienne immortelle et qu'elle se pose la vraie question de la mort pour laquelle elle est là. Elle est là entre le ciel et la terre pour se poser la question de la mort qui, si on arrêtait d'y croire, on pourrait devenir immortel, mais on nous empêche d'y croire, on nous empêche de le dire. Il n'y a nulle part un endroit où on peut annoncer des bonnes nouvelles, alors il n'y a que des mauvaises nouvelles qui peuvent être annoncées. Il serait temps que la belle au bois dormant se réveille, qu'on devienne durable nous-mêmes et qu'on sache qu'on est là pour une éternité et donc on s'occupera de la planète si on sait qu'on est là pour une éternité. Je dis tout de suite que si on change, si on devient immortel, il va falloir aussi, bien sûr, qu'on change de sexualité.
Bien. Bon, merci pour le propos. Non, je vais pas. Est-ce que quelqu'un souhaite répondre? Mais bon, c'est un terrain sur lequel personne ne veut s'aventurer. Bon, écoutez. Alors, y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur, je vous en prie. Alors une question.
Cette question s'adresse à Damien Millet. Je souhaiterais savoir s'il a une petite idée sur la fin des paradis fiscaux. Merci.
Oui, j'ai une petite idée. D'abord, je pense qu'elle est souhaitable.
C'est bien.
Ensuite, je pense qu'elle fait partie des trois mesures qui sont faciles à mettre en place. Trois mesures qu'on peut, je dis pas que c'est facile de l'obtenir, mais dès que la volonté politique sera là, sera facile de l'avoir. Parmi ces trois mesures, il y a une taxe sur la spéculation financière internationale, puisqu'on sait où l'argent passe, il suffit de prélever à l'entonnoir qui s'appelle Clearstream ou Euroclear, etc. L'annulation de la dette, il suffit que le créancier raye dans son livre de compte la créance correspondante. Et les paradis fiscaux, il suffit qu'on décide que l'argent qui s'évapore dans un paradis fiscaux n'existe plus, l'argent ne peut plus réintégrer l'économie réelle, et donc du coup celui qui en a ne va plus aller se mettre dans ce trou noir qui réapparaîtrait nulle part et qui ne pourrait plus ensuite récupérer. Mais évidemment, pour cela, il faut pouvoir faire baisser la frontière, il faut être capable de pousser la porte et d'imposer un certain nombre de choses. On parlait tout à l'heure d'institutionnalisation. Moi, je crois que la seule façon d'inverser le rapport de force qui nous est défavorable actuellement, c'est par les luttes sociales, c'est par le bas. C'est alors, madame parlait tout à l'heure de revenir à l'individu. Je crois que oui, chaque individu doit se poser des questions sur son propre comportement, sur la façon de vivre, d'agir, de voter, de consommer, etc. Mais on ne peut pas faire l'abstraction d'une démarche collective pour essayer de changer les choses en profondeur. Et ce changement collectif, il doit partir d'en bas. Il n'y a pas d'institutionnalisation qui pourrait l'organiser parce que le clivage, il est entre ceux qui subissent et ceux qui profitent. Et toute institution, en l'état actuel des choses, serait au service de ceux qui profitent de cette mondialisation. Donc, on n'y est pas. Il y a encore beaucoup de chemin. On ne voit pas les prémices du début, peut-être. Mais en tout cas, c'est dans ce sens-là qu'il faut travailler. On parlait tout à l'heure d'on va peut-être pas changer le monde. Moi, j'aime bien une phrase qui dit on changera peut-être pas le monde, mais il nous changera pas. C'est déjà ça. Et puis, si on n'arrive pas à changer le monde, au moins, on aura fait le maximum. C'est fondamental de partir sur cette base-là. Deuxième chose, il y a 150 ans, l'esclavage a été aboli. Juste avant l'abolition de l'esclavage, on aurait pu dire, oui, mais l'économie est complètement fondée sur l'esclavage, c'est un mal nécessaire, c'est ça qui permet notre développement. Mais il y a eu des militants qui étaient abolitionnistes de l'esclavage, ils avaient raison, on a obtenu l'abolition de l'esclavage, il y a un nouvel esclavage aujourd'hui à abolir, il faut qu'on soit les militants abolitionnistes d'aujourd'hui, et c'est en étant nombreux qu'on y arrive, il faut faire basculer ce rapport de force, il faut dévider la bobine du modèle économique néolibéral dont on a parlé, et c'est simplement en ayant conscience, en diffusant autour de nous, en se rendant compte qu'on est 6 milliards à le subir, et qu'il y en a une poignée seulement qui en profite. Je vais vous donner un chiffre, je suis prof de maths, j'en ai pas donné beaucoup, j'ai fait un effort surhumain, excusez-moi. Je vais vous donner un chiffre. Il y a un rapport qui paraît chaque année qui s'appelle le World Wealth Report, le rapport sur la richesse dans le monde. Il est publié par deux institutions qui s'appellent Capgemini et Merrill Lynch, une banque d'affaires et un cabinet d'audit. Bon, en gros, le but de ce rapport, c'est de dire « Regardez comme les riches sont riches, placez votre argent chez nous, vraiment, vous allez faire des affaires merveilleuses. » Et il recense le nombre de millionnaires sur la planète. Il y a 8,7 millions de millionnaires dans le monde. C'est-à-dire 8,7 millions de personnes qui ont un patrimoine supérieur à 1 million de dollars. Et le patrimoine cumulé de ces 8,7 millions, ils sont pas nombreux, hein, à peine plus de 1 pour 1000, on est 6 milliards et demi. Hein. Le patrimoine cumulé de ces millionnaires, c'est 33 300 milliards de dollars. Alors on parlait de chiffres avec des zéros, ça fait beaucoup, 33 300 milliards. Bon. Admettons qu'on fasse un impôt de 10% sur cette somme-là. On récupère l'équivalent de 3330 milliards de dollars. La dette extérieure de tous les pays en développement, aujourd'hui, c'est 2800 milliards de dollars. Je vais mettre en rapport avec un dernier chiffre, je vous promets, c'est le dernier. Le programme des Nations Unies pour le développement a calculé qu'avec 80 milliards de dollars par an pendant 10 ans, donc avec 800 milliards de dollars en tout, on garantit un accès universel à l'eau potable, à une alimentation décente, à des soins de santé de base, à une éducation primaire et à des soins de gynécologie et d'obstétrique pour les femmes. Vous en voulez 800, je vous en propose 3330. Il manque juste la volonté politique. La dernière chose que je veux dire, parce qu'on a parlé d'environnement, qu'on n'a peut-être pas beaucoup abordé cette phrase-là, cette phase-là, je vais vous citer quelqu'un et puis je vous dirai après qui c'est. D'accord ? La Banque mondiale ne devrait-elle pas encourager plus de délocalisation des industries polluantes vers les pays les moins avancés ? J'ai toujours pensé que les pays sous-peuplés d'Afrique sont considérablement sous-pollués. Vous avez entendu parler du Probo Koala, vous savez, le navire qui a déversé des déchets toxiques à Abidjan, qui a provoqué 10 morts, plusieurs milliers de personnes qui ont dû aller consulter dans les services de santé. Mais on se dit ponctuellement, c'est un accident, c'est une erreur humaine ou c'est quelqu'un qui a été trop loin. Mais non, c'est l'émergence ponctuelle d'une logique globale. La Banque mondiale, donc celui qui a dit ça, c'est Lawrence Summers, ancien économiste en chef de la Banque mondiale, ancien secrétaire au Trésor de Bill Clinton et qui jusqu'au mois de juin dernier était président de l'université Harvard. Donc c'est pas un type, un fou furieux, c'est pas un mec qui rangeait des voitures et qui sévit plus. C'est quelqu'un dont la pensée a irrigué tout un courant de réflexion aux États-Unis. Eh bien, on pense que, je dis juste un extrait, dans cette phrase, il dit voilà pourquoi les déchets qui provoquent des cancers à 10 ou 20 ans ne serait pas dans les pays où l'espérance de vie est très réduite. autant les mettre là, puisque les gens, de toute façon, ne vivront pas vieux. La moitié des enfants vont mourir avant l'âge de 5 ans, autant que les déchets qui provoquent un cancer à 60 ans, soit dans ces pays-là. C'était une note interne de la Banque mondiale avant le sommet de la Terre du Brésil en 92. Donc voilà, donc je crois que c'est important de parler de la donne écologique, un modèle économique qui n'arrive pas à intégrer la donne sociale, je crois qu'on l'a mis en évidence aujourd'hui, et qui n'arrive pas non plus à intégrer la donne écologique, qui est à mon avis structurellement incapable d'intégrer et la donne sociale et la donne écologique, n'a absolument rien à faire sur cette planète.
Damien l'a répété, la question c'est celle de la volonté politique. Moi je voudrais simplement signaler que dans les traités européens, et ça se retrouvait dans le traité établissant une constitution pour l'Europe, vous avez, ce sont des notes de bas de page, toutes les exceptions qui protègent les paradis fiscaux dans l'espace européen, les îles anglo-normandes, Andorre, Liechtenstein, Monaco et Luxembourg, on le sait. C'est la volonté politique de nos gouvernements, quelle que soit leur couleur, de ne pas toucher aux paradis fiscaux. À nous de changer cette volonté.
Attendez, il y a également Frédéric qui veut dire un mot sur les paradis fiscaux. Non ? Alors, qui veut répondre? Je crois que ça a déjà quand même été abordé par Damien Millet. Et oui, en plus vous venez d'arriver, il y a d'autres personnes dans la salle qui attendent pour d'autres questions.
T'en es où?
La question a déjà été posée et des intervenants y ont déjà répondu. Allez.
Une question au fond là-bas.
Voilà, au fond, allez-y. Oui,
ne pensez-vous pas.
Mais on est d'accord avec vous.
Ne pensez-vous pas que c'est moi, en premier lieu, c'est moi qui me fais complice, qui favorise la mondialisation, les capitaux,
etc. S'il vous plaît, on entend très très mal.
Oui. Oui. Ne pensez-vous pas que c'est moi qui me fais, moi-même, qui me fais complice de la mondialisation, des revenus, etc., et des formidables richesses accumulées, en me précipitant dans les hard discounts afin de toujours payer moins cher, en me précipitant dans les placements financiers, boursiers, etc., en me précipitant dans les hypermarchés, les supermarchés, à faire marcher le système. Je me fais complice. Nous faisons complice. Donc, en définitive, c'est chaque individu qui doit se sentir concerné, je pense, et qui doit informer son prochain, et qui doit également, afin que ça fasse effet de boule de neige, et que par nous-mêmes, parce que ce qui fait leur puissance, en fait, c'est notre bon vouloir à nous, que nous nous laissons imposer. Nous pouvons créer la décision en nous-mêmes de faire changer les choses par notre comportement, notre consommation, notre politique de santé, etc.
Voilà, on va répondre à votre question, effectivement, que tout le monde se pose. Bien évidemment, Frédéric va y répondre.
Eh bien, écoutez, comme cette réunion a été placée jusqu'à présent sur le signe de l'accord, l'unanimité, le consensus, je vais me dévouer pour jouer les mauvais esprits et briser un peu et faire un peu émerger le dissensus. Je réponds à votre question, monsieur, et du même coup, je réponds à une question qui a été posée par une demoiselle là-bas et qui finalement nous interrogeait sur le même mode en nous demandant est-ce que pour changer le monde, il ne faut pas commencer par changer des individus? Eh bien, je vais vous dire, alors que tout le monde sans doute ici est d'accord avec cette proposition, moi je suis en désaccord avec elle. Je pense que tous les projets politiques qui présuppose l'émergence d'un homme nouveau, au mieux ne voit pas le jour et au pire ont une très très sale gueule. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire un effet par devers nous-mêmes pour modifier nos comportements, gaspiller moins d'eau, etc., etc. Mais, et vous allez voir monsieur, que je suis simultanément très d'accord et très en désaccord avec vous. Très d'accord parce que oui, les gens qui se précipitent dans les discounts pour acheter à moindre frais, à moindre prix, reconduisent exactement la logique de la mondialisation, celle de la concurrence qui fait baisser les prix, qui va asservir des salariés pour comprimer leurs coûts salariaux, leur imposer des plans de licenciement, etc., etc. Mais précisément, qui se précipite dans les hard discount? Ces victimes-là de la mondialisation. Car quand vous gagnez à peine le SMIC, que vous êtes sous la menace d'un plan de licenciement en permanence, vous n'avez pas les loisirs de vous adonner au commerce équitable, etc. Votre problème, c'est de joindre les deux bouts. Vous comprenez? Et c'est là que je cesse d'être en accord avec vous, car, à mon avis, si je peux me le permettre, l'erreur que vous commettez, c'est de transformer un problème politique en un problème moral. Mais moi, je ne crois pas à la génération spontanée de la moralité des comportements et de la vertu. Moi, je crois aux structures et aux institutions qui déterminent les individus et qui les obligent à se comporter d'une certaine manière. Si vous voulez que les salariés aient d'autres solutions, d'autres recours que de se précipiter les malheureux dans les hard discounts pour réussir à boucler leur fin de mois, il faut modifier les conditions d'ensemble qui les jettent précisément dans ces hard discounts et briser cette logique incroyablement perverse. Qui veut que les victimes de la mondialisation soient ces individus qui, à leur corps défendant, garantissent sa pérennité et sa reproduction. Donc évidemment, là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. Par conséquent, on nous dit c'est par le bas qu'il faut changer les choses. Mais moi, je ne crois pas, car nous sommes dominés par des abstractions de haut niveau qui ont pour nom la finance, la concurrence, l'Union européenne, l'OMC... C'est à ce niveau que se passe, c'est ça le niveau pertinent des luttes. Alors c'est désespérant parce que vous vous dites, mais moi, je ne siège pas à l'OMC, je ne suis pas commissaire européen, qui puis-je? Pas grand-chose. Alors, si un petit peu quand même, c'est-à-dire une fois que le diagnostic a été bien posé et que l'action par le bas, toute louable qu'elle soit, ne suffira pas à mettre un terme à la mondialisation. Il en résulte que néanmoins, par le bas n'est pas complètement dénué de pertinence. Car par le bas, c'est de là qu'émerge la force politique qui finit par peser sur les gouvernements et le cas échéant par les foutre à la porte. Alors, écoutez, c'est la seule arme que nous avions à notre disposition, servons-nous-en et ne nous faisons pas exagérément d'illusions malgré tout.
Alors... Il y avait, oui, voilà.
Ici,
Madame,
oui, voilà.
Qui réclamait depuis.
Bon, moi, je vais faire de la politique, hein. Allez-y. Bon, ça fait 20 ans que je change mes trucs. J'ai une maison solaire, je fais du bio, etc. Donc, par nous-mêmes, on peut changer des trucs. Bon, maintenant, alors, moi, j'attends un grand rassemblement. Je vais peut-être en choquer, hein. Pourtant, je suis chez les Verts. De Hulot à Beauvais, en passant peut-être par Arlette. Je sais pas, Arlette, elle est pas écolo. Qu'est-ce qu'on attend? Pour proposer donc un nouveau rassemblement politique. Après, chacun avec son petit ego, Besancenot, moi je veux me présenter, Buffet, moi je veux me présenter, Voynet, ouais. Il y en a marre de ça. Qu'est-ce qu'on attend? On est nombreux.
On attend beaucoup. Peut-être que Raoul a un mot à dire.
Chut, ils ont peut-être justement des éclairages à cette question. Oui, non mais... Ah pardon, alors, juste un instant, un éclairage ici.
Alors bonjour à tous. Oui, alors c'est très bien de vous entendre, vous, les intellectuels ou des universitaires, mais aussi, est-ce qu'on pourrait entendre les universitaires et les intellectuels prôner la simplicité telle que Thoreau l'a enseignée? Parce que tout commencerait là si on y avait une éducation des intellectuels, des universitaires pour un mode de vie vraiment simple et en accord avec la nature. Là, Mais vous avez des très bonnes analyses, ok, très intelligentes, mais vous parlez pas assez de simplicité de la vie telle que Thoreau l'a dit. Voilà.
Pardon. À vous.
Attends, monsieur, non?
Ah, on continue les questions? D'accord. Vas-y, Karine, vas-y.
C'est sur le même sujet?
Oui.
C'est sur le même sujet que madame?
C'est sur le même sujet que madame.
Allez-y.
C'est bon? Oui. Au niveau politique, il y a quelque chose qui se fait. Il y a des collectifs pour les candidatures unitaires qui est un mouvement très important, très novateur, qui en fait prend son origine dans des tas de luttes, mais notamment dans le non à la Constitution. Et j'avais une petite question à poser, mais je pense que Raoul Marc Génard a démissionné. Bon. Voilà. Non,
bon, je vais répondre. Hein.
Voilà.
pas sur moi, ça n'a pas d'importance. Dans la cohérence du non et des arguments du non au traité constitutionnel européen,
Tous ceux qui ont contribué à ce nom ont continué. Ils ont continué difficilement parce que, et ça fait plaisir à entendre, l'immense aspiration à l'unité qui est nécessaire pour un vrai changement, elle est là, mais il y a aussi les pesanteurs. Et les pesanteurs des appareils, des êtres humains, des femmes et des hommes, ce sont aussi des réalités avec lesquelles il faut travailler. On ne peut pas en faire l'économie. Vous savez, le plan le plus parfait, c'est la dictature. Donc on s'est mis au travail. Et je voudrais quand même, parce que la plupart des médias, politiques exceptés, ne le soulignent jamais, depuis à peu près un an, nous réalisons dans ce pays quelque chose qui est totalement inédit. Jamais on a vu des femmes et des hommes appartenant à des courants qui se sont parfois violemment opposés, qui viennent de sensibilités, bien sûr qu'on dit pour faire court à gauche, mais qui ne sont pas toutes les mêmes, loin s'en faut, entre les partisans du nucléaire et les adversaires, il y a des gens qui sont quand même de gauche et qui ont ces deux opinions-là. Depuis un an, on s'est mis à la tâche, et tous ensemble, et ce ne fut pas facile, et ça reste extrêmement difficile, nous avons relevé un certain nombre de défis. Le premier, c'était, après avoir dit non, dire oui. Oui à un projet de société différent. C'est ce qu'on appelle la charte antilibérale. Nous l'avons adoptée après des mois de travail, non pas au niveau d'un état-major à Paris, mais à travers un travail qui s'est fait à travers tous les collectifs du nom devenu les collectifs du 29 mai. Après ça, nous avions un autre obstacle, un autre défi à relever, qui n'est pas le moindre et qui continue à faire en sorte que certains ne sont pas complètement avec nous, c'est quel rapport peut-on entretenir si nous représentons un courant politique réel basé sur cette charte antilibérale, quel rapport peut-on entretenir avec le Parti Socialiste? Ça pose question, parce que vous savez que pour changer de président de la République et de majorité à l'Assemblée nationale, mais il faut une majorité. Il faut une majorité. Et le problème, c'est que pour changer le système institutionnel, il faut se glisser dans le système institutionnel existant, à moins d'entreprendre le coup de feu sur le plateau du Larzac ou sur le massif du Vercors. Mais c'est un autre choix. Dans cette perspective-là, après de longs débats, et encore une fois, moi, je à la fois si je suis un de ceux qui aspirent à ce que ça réussisse, mais alors avec une intensité extraordinaire, je suis aussi quelqu'un qui essaye de comprendre ce qui, dans, permettez-moi de le dire comme ça, la patte humaine, fait en sorte qu'il y a des résistances à côté de ceux qui veulent aller plus vite. Mais nous avons réussi à trouver une formulation sur ce qui est acceptable et sur ce qui ne l'est pas dans les rapports avec le Parti Socialiste. Et en tout cas, nous avons dit, et nous sommes tous ensemble pour dire qu'aujourd'hui, sur la base du programme de ce parti, sur la base de la direction de ce parti et sur la base des candidats de ce parti, aucun accord actuellement n'est possible avec le Parti Socialiste. C'était un autre défi à relever. Un troisième défi, et nous l'avons très largement relevé il y a peu à Nanterre, c'est après un travail au niveau des collectifs, encore une fois pas au niveau d'un état-major central ou d'intellectuels ou d'universitaires qui se réuniraient de temps en temps à Paris, non, à travers 600 collectifs, nous avons élaboré 125 propositions qui constituent une véritable alternative. Et nous avons dit, et je crois que c'est un progrès immense dans la manière de penser la politique, que nos différences nous enrichissaient plus que de vagues et ambiguës consensus. Et donc, quand nous ne sommes pas d'accord sur certains points, nous le reconnaissons et nous l'actons. Nous n'avons pas réussi un accord sur le nucléaire. Mais nous avons, plutôt que de faire une phrase alambiquée qui trompe tout le monde, nous avons nous avons dit que si nous arrivons aux affaires, il y aura un audit sur toutes les centrales et toutes les centrales qui mériteront d'être fermées seront fermées et le Parti communiste est d'accord. Nous avons dit que sur le fond du problème, sur quels doivent être les modes d'approvisionnement énergétique de la France, il y aura un référendum et le peuple français sera questionné. Et le Parti communiste est d'accord. Plus loin, ce n'était pas possible, puisqu'il y avait des partisans de la sortie immédiate du nucléaire et des adversaires. Mais nous ne voulons pas non plus tromper les gens. On essaye de faire dans une démarche qui n'est pas facile, qu'il est très aisé de caricaturer. On essaye exactement de faire la même chose que pendant la campagne contre le TCE, plutôt que des slogans s'adresser à l'intelligence des gens. Les gens ne sont pas stupides, ils peuvent comprendre les difficultés, nous les présentons franchement. Nous les présentons sans faux fouillant, sans faux semblant. Et nous avons réussi à avoir 125 propositions pour une véritable politique alternative. Maintenant, nous sommes au pied du mur pour le dernier défi. Le dernier défi qui n'est pas le moindre, parce que dans toute société humaine, dès lors qu'il s'agit de rapport au pouvoir, les êtres humains restent les êtres humains. Je suis bien d'accord qu'il faut aussi nous changer pour changer la société, mais bon, on a quelques problèmes. Oui, mais ce n'est pas l'ironie et le sarcasme qui permettent de les régler. J'ai oublié d'indiquer que tout ce que nous avons réussi jusqu'à présent, et ça aussi c'est inédit dans la vie politique française, nous l'avons fait par consensus. Personne n'a imposé sa loi aux autres. On a débattu aussi longtemps qu'on trouvait une solution que tout le monde pouvait accepter. Et c'est de la même manière qu'il nous faut maintenant trouver la personne qui nous représentera le mieux. Ce n'est pas facile, parce qu'il y a les appareils existants, parce qu'il y a les pesanteurs du système. Vous savez très bien que la Ve République fait en sorte qu'un parti politique qui n'y participe pas à la compétition présidentielle n'existe pas. Or, nous demandons à des partis politiques de s'effacer pour que nous réussissions l'unité, et ce n'est pas la chose, évidemment, la plus facile. Alors, nous avons décidé, je termine, nous avons décidé que les 600 à 700 collectifs qui existent aujourd'hui vont se prononcer, vont exprimer leurs préférences par consensus, pas par vote, par consensus. Il y a quelques difficultés, et c'est ce qui explique ce que j'ai fait, il y a quelques difficultés et qu'il faut surmonter, mais je suis convaincu qu'on va les surmonter, parce que déjà il y a des résultats à ma protestation, et puis il faudra choisir. Alors, je ne suis pas prophète, je ne sais pas si nous allons réussir, si nous allons parvenir à franchir cette ultime étape qui est la plus difficile. Je le souhaite ardemment, je crois que c'est pas une affaire de quelques-uns qui sont engagés dans le truc, c'est notre affaire à toutes et à tous, ici aussi, cet après-midi. À vous toutes et à vous tous d'exprimer votre volonté que nous réussissions et que nous parvenions à transcender ce qui fait le choix difficile. Merci.
Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps. On va prendre encore une question. Donc vous avez vu qu'on est passé, on est devenu très vite une tribune politique. excusez du peu. Bon, apparemment, ça n'a pas suscité trop de protestations, donc on a l'air d'être à peu près d'accord. Madame, peut-être.
Mais alors, ce sera la dernière parce que les conférences suivantes qui commencent à 16h, voilà.
Allez, la toute dernière.
D'accord. J'espère absolument.
Il me semble qu'il y a un aspect en arrière-plan de cette révolution, en fait, qu'on veut, ce changement d'orientation qui fasse que ça ne soit plus la loi du marché et du profit qui domine l'économie, pour que ce changement d'orientation soit vraiment accueilli en chacun et porté par chacun, est-ce que il ne faut pas aller chercher dans la conception que l'on a de l'économie et finalement dire la chose toute simple que l'économie au départ, elle n'est pas faite pour faire du profit, elle est faite pour rendre service aux gens, pour que ceux qui savent qui ont une spécialité dans un travail, fabriquent quelque chose qui va aller à d'autres qui n'ont pas cette spécialité, et inversement. Et finalement, on pourrait dire que c'est la loi de la fraternité qui régit l'économie. Et est-ce que ça n'est pas un plan très important pour que chacun puisse le porter moralement, on va prendre ce sens moral, dans le sens qu'on puisse accompagner par des valeurs ce changement-là, qui signifie que, y compris pour le consommateur, ça ne soit pas avoir à tout prix le truc le moins cher, mais qu'il y ait, et c'est un changement fondamental qui doit être fait,
oui,
que dans le domaine de l'économie, on instaure au niveau régional, et il y a des petites tentatives qui se font dans les lieux locaux, des tentatives d'entente entre producteurs, consommateurs, transformateurs, commerçants,
vous voulez, en fait,
pour trouver ces valeurs-là, si vous comprenez.
C'est le modèle économique libéral passé à un autre modèle.
Voilà, voilà.
Et je pense que Frédéric, il va sans doute conclure déjà, et ensuite il a donné quelques mots là-dessus, dire un petit peu ce qu'il en pense.
Oh, c'est une difficile responsabilité, ceci d'autant plus que vous reprenez le problème par le côté des valeurs et de la morale, et je suis toujours aussi réticent avec cette approche-là de la chose, quand bien même ça ne m'empêche pas de reconnaître un seul instant que tous les efforts que nous pourrions faire, nous, à notre niveau, ça serait toujours ça de gagner et qu'on se porte mieux avec que sans. Malheureusement, la génération spontanée des valeurs, vous savez, C'est un truc un peu aléatoire. Alors, évidemment, malgré cela, je ne peux que vous suivre quand vous dites ce qui est en jeu, finalement, c'est une révolution conceptuelle sur la manière dont nous saisissons ce que c'est que l'économie et la façon dont elle doit régir nos existences. Et le fait est que, d'une manière, disons, raisonnablement optimiste et réaliste, on pourra envisager quand même un certain nombre de choses qui sont à notre portée. Par exemple, cesser de conditionner toutes les activités économiques au seul impératif du profit. Vous voyez, c'est assez petit, et pourtant c'est déjà énorme, mais c'est moins gros que d'imaginer que nous allons tous devenir solidaires, généreux, bons, vertueux, etc. Moi, perspective que j'aimerais beaucoup voir advenir de mon vivant, mais à laquelle je ne crois pas tellement. Par contre, essayer de modérer les aspirations au profit de certains, ah oui, ça c'est quelque chose qu'il est possible de faire. Je vais prendre un exemple extrêmement simple. Un rapport récent a été fait par la Cour des comptes qui nous dit, regardez, la Poste est dans une situation terrible, elle connaît des déficits et elle a des sureffectifs. Et alors, avoir des déficits, c'est une tâche ou c'est une contrainte qu'on peut assigner à une entité publique. Et avoir des sureffectifs, je ne vois pas en quoi ça serait une tare. Donner du travail à des gens, ça n'est pas un fléau que je sache. Donc effectivement, si nous arrivions à voir autrement les contraintes de la profitabilité et les faire régresser dans l'ordre des priorités, ça serait très bien. Une autre toute petite chose que nous pourrions faire, c'est simplement étendre à la sphère des rapports économiques ce qui a été gagné, qui nous semble aller de soi et qui a pourtant été l'objet de luttes historiques extrêmement longues dans la sphère politique, à savoir l'idée d'une forme de participation. Dans la sphère politique, ça s'appelle le vote, le suffrage, et on estime que cette participation électorale est l'expression d'une forme de dignité humaine, la dignité de citoyen, la dignité à participer aux affaires de la cité. Et pourquoi n'en irait-il pas de même dans l'ordre des affaires économiques? Pourquoi laisserions-nous persister des rapports qui entérinent des formes de domination, qui réservent à certains l'indignité à des degrés qui sont proprement scandaleux? Et pourquoi ne concevrions-nous pas que les collectifs de travail, plus aussi largement que possible, doivent être associés pleinement à leur propre destin collectif? Voilà. Alors c'est des petites choses, mais effectivement, qui pourraient commencer à tracer les linéaments d'un changement de modèle.
Est-ce que je peux ajouter une petite chose? C'est-à-dire que dimanche, ce que ça intéresserait, il y a une excellente conférence sur le commerce équitable. Non pas une étiquette qu'on met sur un produit de la grande distribution, mais bien un mode de fonctionnement qui fonctionnerait sur la filière. Du producteur jusqu'au consommateur. C'est dimanche, et je peux vous dire que les gens de Minga qui travaillent sur ces questions font vraiment un travail remarquable. Voilà, c'était juste une petite parenthèse, absolument. Je te laisse terminer.
Je vous invite à aller assister à cette conférence, vous entendrez des choses très intéressantes, notamment de Christian Jacquiot aussi, qui participera à cette conférence, qui est l'auteur d'un livre qui est le seul livre d'ailleurs qui porte sur le commerce équitable, qui est une véritable enquête, qui s'appelle les coulisses du commerce équitable. Voilà, merci à tous, on est obligé d'arrêter là pour cette excellente conférence.
conférence et pour toutes ces questions. Voilà.
Merci à tous. Alors, je voudrais vous signaler que les livres... Pardon, vas-y.
Non, mais
vas-y.
Je crois que tu voulais aussi dire quelque chose. Si,
juste sur les livres. Voilà. Pardon ?
La poursuite du débat, si vous...
Ah oui, le prochain débat, c'est sur... Attention, société sécuritaire. Alors ça, c'est un débat aussi qui réserve quelques surprises sur les modes de fonctionnement de la société actuelle. Et ses dérives sécuritaires, donc. Je voulais vous signaler que quand même que ces personnes qui sont brillantes, Frédéric Lordon, Damien Millet et Raoul Margénard, ont des livres. Pour Raoul, c'est « L'Europe, la trahison des élites ». Pour Frédéric Lordon, c'est « mince, excusez-moi, le nom m'échappe, mais bon, c'est un excellent économiste et vous l'aurez constaté comme moi ». Et pour Damien Millet, c'est « La dette odieuse ». Voilà, je vous remercie vraiment.